poussière d'étoiles.
Jeunesse, si tu savais. Nous allons découvrir le premier génocide de ce XXe siècle avec la mort programmée de la première nation chrétienne de l'histoire. L'appel du muezzin vibre soudain dans la nuit claire. Au bruit de cette voix rauque qui égrène les premières notes de son chant, Krikor se dresse d'un bond sur son lit. Une fois de plus, l'invitation à la prière s'est confondue avec son cauchemar et l'a brusquement tiré de son sommeil. Les yeux grands ouverts dans l'obscurité, le vieil homme tente en vain de se raisonner. Pourtant, en cette nuit de février 1918, il y a presque 2 ans que le calme est à peu près revenu à Kharput, cette petite ville de 30 000 âmes perdue au cœur de l'Empire ottoman. Les couloirs du consulat américain ont beau être déserts. Le consul a beau être reparti aux États-Unis, depuis que son pays est en guerre contre l'Empire, Krikor n'a pas à craindre une incursion de musulmans fanatiques dans ses locaux, dont il est désormais l'unique habitant et le seul gardien. Pourtant, la psalmodie du nom d'Allah lui rappelle les soirées effroyables de l'été 1915. À l'abri derrière les murs du consulat, Krikor frémissait chaque soir en entendant la prière publique des Turcs rassemblés devant le bâtiment. Ils invoquaient pieusement Allah de les bénir dans leurs efforts pour exterminer les chrétiens haïs. Jour après jour, ces fidèles poursuivaient leur sanglante entreprise. En écoutant le muezzin chanter la grandeur de son Dieu, le vieil homme laisse affluer ses souvenirs. Il ne peut les retenir. N'a-t-il pas vécu toutes les affres de cette histoire tragique que les survivants du peuple arménien ne pourront jamais oublier ? 26 juin 1915. Cette date hante l'esprit du vieillard. C'est ce jour-là que le crieur public a bouleversé de sa voix de stentor l'existence des Arméniens de la province. Krikor, ayant affaire à Kharput, avait quitté très tôt son village de Zbozmachen, situé à 2 heures de route de là. Bâti au sommet d'une petite montagne, Kharput dominait une plaine fertile que Krikor ne contemplait jamais sans émotion. Il était profondément attaché à cette terre séparée de tout port et de toute ligne de chemin de fer par plusieurs centaines de kilomètres. Il fallait 2 semaines de voyage en charrette pour atteindre la mer, et un télégramme mettait entre 2 et 15 jours pour atteindre Istanbul. Mais l'amour de Krikor pour sa plaine, coupée du reste du monde, était lié à une sourde angoisse. Terre chrétienne dans un empire musulman, cette province peuplée d'Arméniens avait toujours été regardée d'un très mauvais œil par le gouvernement de la Sublime Porte. La position du sultan en 1909 avait fait croire un instant aux Arméniens que les massacres qu'ils subissaient périodiquement allaient enfin faire partie d'un sombre passé désormais conjuré. Mais cette illusion était vite dissipée. Le gouvernement, jeune turc, quoique laïque, n'était pas mieux disposé que l'ancienne dynastie ottomane à l'égard de cette race étrangère qui pratiquait une religion détestée, vivait selon des coutumes mal comprises et exaspérait la population turque locale par la prospérité de son commerce et de son agriculture. Ce jour-là, en atteignant les portes de la ville, Krikor était particulièrement inquiet. Des rumeurs avaient circulé jusque dans son lointain village. On parlait de l'étonnante disparition des notables arméniens les plus célèbres de la ville. La gendarmerie turque, sous prétexte d'un complot révolutionnaire, avait procédé à l'arrestation de nombre d'entre eux. Nul ne savait depuis ce qu'ils étaient devenus. Au seul souvenir de ce qu'il a entendu en ce matin du 26 juin, les battements du cœur du vieil homme s'accélèrent follement dans sa poitrine. Voilà plus de 2 ans que, dans l'esprit inquiet de Krikor, le crieur public proclame froidement l'ordre de déportation immédiate de la population arménienne tout entière, hommes, femmes, enfants, vers une destination bien trop lointaine pour être atteinte à pied par un été torride, à travers des régions où l'on peut marcher 3 jours de suite sans rencontrer un puits. C'était la condamnation à mort de tout un peuple qui était ainsi prononcée. Et d'emblée, Krikor renonça à la comprendre. Il n'envisagea pas pour autant de prendre des armes. Les Arméniens sont pacifiques. Pas plus que la plupart de ses frères de race et de religion, le vieil homme ne se sentait capable d'une résistance héroïque. Il rentra dans son village pour y attendre la mort, certain qu'elle viendrait l'y chercher aussi sûrement que s'il partait avec les convois de déportés. Krikor est caché dans un sombre réduit de sa maison. Il suivit néanmoins les premières péripéties de la tragédie. Bozmachen et les villages alentours se vidèrent de leurs habitants arméniens. Ceux-ci, avant de partir, vendirent leurs biens les plus précieux aux Turcs pour des sommes dérisoires. Et ces derniers, tels des vautours, festoyèrent sur le malheur de leurs voisins haïs. Sitôt les déportés partis, les gendarmes turcs arrivèrent sur place pour procéder au nettoyage. Ils ne firent pas de quartier et assassinèrent froidement les villageois restés chez eux. Krikor se terra dans son grenier. Un jour de juillet, des pas se firent entendre à sa porte. Il crut sa dernière heure arrivée. Miracle. Ce n'étaient pas des gendarmes turcs. La voix avait un accent américain. Comment la Providence avait-elle mené jusque chez lui le consul américain de Carput en personne? Il ne le comprit jamais. Pour l'heure, il était sauvé. Le voilà installé au consulat, minuscule bout de terre américaine, perdu au cœur de la Turquie d'Asie, qui devait sa survie au fait que les États-Unis étaient encore une puissance neutre dans le conflit mondial. C'est à l'ombre du drapeau étoilé auquel il devait la vie que Krikor a compris l'ampleur de la tragédie qu'était en train de vivre son peuple au fil des récits que faisaient au consul les réfugiés qui se présentaient. Il a pris le sort prévisible des immenses convois de déportés qui sillonnaient le pays. Ceux des malheureux qui résistaient à la fatigue et à la soif étaient décimés par des bandes féroces de pillards kurdes dont la présence sur leur chemin était encouragée, voire commanditée par le gouvernement d'Istanbul, acharné à la perte du peuple arménien. Le consul impuissant lui parla de ce camp que les autorités avaient installé à Carput pour les convois qui arrivaient des provinces les plus reculées de l'Empire. Ces gens-là mettaient à ne pas mourir une obstination qui agaçait les Turcs de la ville. Aussi les avait-on parqués dans un cimetière, sans vivres ni vêtements, pour en finir. Le regard du consul s'assombrit lorsqu'il évoqua ces visions affreuses qui n'étaient pas, hélas, le triste privilège de Carput. Ce n'était partout que ruines fumantes et champs de cadavres. Femmes, enfants, vieillards, viols, tueries, l'horreur était partout effroyable et systématique. Krikor entendit le récit du massacre de 900 hommes sur qui les gendarmes avaient ouvert le feu dans une vallée déserte avant de les achever à la baïonnette. L'un des seuls rescapés de cette tuerie a été hébergé un temps au consulat avant de reprendre sa route vers la frontière russe déguisée en femme. Krikor ne repense jamais, sans un sentiment de profonde injustice, à l'épisode révoltant de la mort de l'évêque catholique, Monseigneur Israélien. Le gouverneur de la province faisait semblant de respecter cet homme profondément bon. Aussi, à son départ, Monseigneur Israélien et une quarantaine de membres de son entourage s'étaient-ils vus délivrer des sauf-conduits. Ruse infâme. Krikor vit un jour arriver au consulat l'une des trois femmes de ce petit convoi catholique à en avoir réchappé. Elle lui raconta comment le groupe, ayant été arrêté par un peloton de gendarmes qui avait affirmé ne plus pouvoir assurer sa sécurité s'il poursuivait sa route plus avant, avait dû rebrousser chemin pour tomber dans un guet-apens. L'évêque et ses ouailles, agenouillés, avaient tenté d'ouvrir leurs livres de prière qui leur furent arrachés avec des jurons et des coups de pied. Puis ce fut l'hécatombe. Seules trois femmes, jugées assez jolies pour orner des harems, furent épargnées. Chaque journée apportait à Krikor, au cours de cet été funeste, des rumeurs de mort et de dévastation. Krikor sait maintenant ce qu'est l'abomination de la désolation dont parle la Bible. C'est le massacre de tous ces innocents que l'on a beau jeu d'accuser d'intelligence avec l'ennemi et de complot révolutionnaire. C'est une lente agonie froidement voulue par un gouvernement implacable. Cette élimination systématique de tout un peuple dont le seul tort est d'exister et d'avoir une foi différente de celle des autres sujets de la terre où il vit. C'est le destin d'hommes et de femmes qui, de 2 300 000 qu'ils étaient avant le début de leur chemin de croix, ne sont plus que 800 000 une fois parvenus au sommet de leur calvaire. 1 500 000 d'entre eux sont tombés en route, le long de cette via dolorosa, amère, que leur ont infligé la haine et le fanatisme. En 1986, la sous-commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies reconnaissait officiellement le génocide du peuple arménien. L'Assemblée nationale française le reconnut aussi.
Retrouvez les Poussières d'étoiles sur le net, en audio ou par écrit, poussièresd'étoiles.fm, poussièresd'étoiles au pluriel, .fm.